Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs, voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède et où il nous invite au calme et à l'écoute. Voici le culte où la parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans nos vies pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la paix en Christ ressuscité. En ce dimanche, ou dans d'autres églises, on célèbre le Saint-Sacrement. Nous savons que notre espérance est en Dieu seul. Que chacun et chacune ici reçoive de Dieu la grâce, la joie et la paix dans son cœur et dans sa vie entière. Amen. Vous avez entendu comme moi une voix ? C'est magnifique. C'est la louange que nous voulons donner à Dieu seul. Ce Dieu pour lequel nous avons de la tendresse et de l'affection, ce Dieu qui nous aime et que nous adorons humblement. Oui, Seigneur, comme cette voix qui vient du ciel, nous croyons en toi, nous te bénissons comme tu nous bénis et nous t'adorons. Nous voulons réentendre chaque dimanche le projet que Dieu a pour nous, pour chacun et chacune d'entre nous. Christ, tu n'as pas d'oreille. Tu n'as que nos oreilles pour entendre le cri de nos frères. Christ, tu n'as pas d'yeux. Tu n'as que nos yeux pour rayonner ta présence en nos vies. Christ, tu n'as pas de lèvres. Tu n'as que nos lèvres pour parler de toi aux humains d'aujourd'hui. Christ, tu n'as pas de pieds. Tu n'as que nos pieds pour conduire les frères et les sœurs sur ton chemin. Christ, tu n'as pas d'aide, tu n'as que notre aide pour mettre tous les humains à tes côtés. Nous sommes la seule Bible que le public lit encore. Nous sommes le message renouvelé de Dieu écrit dans nos actes et dans nos paroles. Amen. C'est une lourde tâche qui nous est donné, nous qui passons nos dimanches matins en église pour l'adorer. Devant l'idéal infini de l'amour de Dieu, nous ne pouvons que nous reconnaître comme imparfaits, c'est-à-dire pécheurs. À côté de moi, il passe en souriant comme pour se moquer. Où est-il donc ton Dieu ? Et ils ont raison. Comment pourrait-il découvrir seulement que tu es, si de toi je suis vide et indifférent à ta présence ? Comment pourrait-il deviner seulement qui tu es, si tu n'habites pas mes paroles et si ton nom est étranger sur mes lèvres ? Pourrait-il saisir comment tu es si mes mains s'agrippent aux choses, à l'argent, et si mon cœur distille toutes les malfaçons de l'amour. Ils ont raison, Seigneur, car souvent je perds ton visage, je le recouvre d'un voile, parfois je te condamne à l'oubli. Alors à ceux qui nous disent « Où est-il votre Dieu ?», nous répondons ensemble en disant « Ne regardez pas à nos insuffisances, ne tenez pas compte de nos maladresses, regardez là-bas. » Il y a des hommes, des femmes, qui, en son nom, communient à la pauvreté, se tiennent près des agonisants, se dressent avec les écrasés, donnent leur vie pour que s'ouvre un monde différent. Ainsi, nous tous, nous pouvons changer de vie, être transparents à Dieu, afin qu'au-delà de nos épaisseurs, toutes les personnes en quête de Dieu puissent cueillir et accueillir des signes clairs de sa présence dans le monde. Notre péché est là, dans le manque d'amour du prochain, dans le manque de foi en Dieu, dans le manque d'espérance pour le monde. Pardon, Seigneur. Amen. Je vous prie de vous lever pour entendre cette bonne nouvelle d'un pardon accordé à ceux qui l'espèrent, le recherchent. Le Seigneur, par la puissance de son amour, nous remet debout. Il nous met en marche. Il nous appelle dehors. Ne crains rien, dit le Seigneur, je t'ai appelé par ton nom. Désormais, tu es à moi. Ne crains rien. Crois seulement. Amen. Avant d'ouvrir les Saintes Écritures, nous voulons nous placer devant Dieu, le prier, afin que les paroles contenues dans ces livres soient pour nous une parole de vie. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce d'un silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, les passages de l'Écriture que nous allons entendre deviennent bonnes nouvelles pour nos vies. Amen. Je me fais en général un peu violence quand je prêche ici et là. Je m'astreins à prendre les textes du jour. C'est un bon exercice pour chacun. Quand vous ouvrez un recueil de, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce qu'on a souvent dans nos paroisses, on a le lectionnaire, on va appeler ça comme ça, de regarder les textes du jour et de se laisser surprendre. Alors parfois, il y a des surprises qui vous donnent un petit peu froid dans le dos ou au contraire, des bouffées de chaleur. Ça a été le cas quand j'ai préparé ce culte. La première lecture est le psaume 110. Psaume de David. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles tes armées. Avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne se repentit pas. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur, à ta main droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations, tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Le deuxième texte retenu est tiré du livre de la Genèse au chapitre 14, les versets 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Alors Abraham donna à Melchisédek le dixième de tout ce qu'il avait pris. La troisième lecture est tirée de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6. Les versets en sont 17 à 20. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Après avoir entendu ces textes, je pense que pour nous faire oublier un petit peu le goût du sang, nous pourrions chanter. Voilà, vous l'avez entendu au travers de ces textes du psaume, jusque dans le Nouveau Testament avec l'Épître aux Hébreux. Parfois arrivent dans la Bible quelques personnages qui ont une grande postérité et pourtant leur nom reste un petit peu mystérieux. Je pourrais prendre l'exemple de Rahab, par exemple. Cette prostituée qui, dans le livre de Josué, accueille des espions dans sa maison à Jéricho, les protège. Et cette prostituée, Rahab, on la retrouve ensuite dans la généalogie de Jésus établie par l'évangéliste Matthieu. Cette Rahab finit par donner naissance à Boaz, lui aussi un ancêtre lointain de Jésus. Lié à Salomon, connu tout le monde, non universellement réputé pour sa sagesse légendaire. Mais malheureusement, on n'a jamais trouvé la moindre trace archéologique de son existence jusqu'à ce jour. Et puis, aujourd'hui, on a entendu parler d'un certain Melchisédek. Rien que la sonorité est assez étrange. Il fait l'objet, comme vous l'avez entendu en Genèse, de quelques lignes seulement, sitôt venu, déjà disparu, mais il réapparaît, puis il inspire l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Vous savez qu'on ne connaît pas l'auteur de l'Épître aux Hébreux. On l'a attribué très longtemps à Paul. Aucun théologien exégète aujourd'hui ne maintient cette position. Alors il faut se poser la question, puisque je commence par des remarques un peu de type textuel, de critique textuelle, pourquoi les canonistes de l'Ancien Testament, ceux qui ont mis ensemble les livres, donc les Juifs ou les Hébreux, puis les Juifs qui ont mis ensemble cette collection de livres, ont pris un tel risque en intégrant un personnage apparemment aussi important, puisqu'il va offrir un sacrifice de pain et de vin, bénir Abraham et être un roi dit de Salem, Melchisédek, alors c'est le roi de justice, et on dit il est roi de Salem, c'est certainement Jérusalem. Alors pourquoi est-ce que les canonistes n'ont pas pris certainement d'autres traditions, parce qu'on le sait depuis par l'archéologie, on a retrouvé d'autres traces. Et si elles nous sont arrivées jusqu'à nous, notamment par les rouleaux de Qumran, on ne comprend pas bien pourquoi ils n'ont pas développé le personnage, ce personnage aussi important qu'est Melchisédek. Il faut attendre effectivement l'Épître aux Hébreux pour en savoir un peu plus. Alors, qu'est-ce que peut nous apporter un petit texte comme ça? Quelques lignes de Genèse qui évoquent surtout, vous l'avez entendu, c'est pour ça que j'ai choisi le cantique des batailles, enfin dit des batailles, des guerres entre nations, et puis ce surgissement très bizarre de Melchisédek. Étrange encore est la rencontre qu'il peut faire avec Abraham. Abraham, lui, nous est plus connu. Il est l'objet d'une saga complète, on peut l'appeler comme ça, dans le livre de la Genèse. Et on a un personnage qui est assez cohérent. On le connaît nomade, riche nomade, certainement à la tête de plusieurs troupeaux et donc de plusieurs bergers. Je ne dénombrerai pas les brebis, les bœufs, les ânes, mais aussi les serviteurs. 318 de ces braves serviteurs à sa disposition. C'est une belle PME, des servantes évidemment. Et puis on met derrière les servantes les ânesses et les chameaux. Donc comment ces deux personnages en viennent à se rencontrer pour créer une petite scénette ? Un roi qui vient se présenter devant un nomade qui est vainqueur de tribus hostiles ou au moins avec lesquelles il est en compétition. Alors, si nous connaissons à peu près Abraham à l'époque, on a ce Melchisédek, roi de Salem, comme je l'ai dit, de Jérusalem, certainement qui gouverne les tribus, ou en tout cas qui dirige les tribus de la région, éventuellement souverain d'une capitale réunifiée, ça serait à vérifier cette fois. Donc certainement les rédacteurs de Genèse nous donnent quand même une petite indication. Il serait cette fois dans la lignée, mais en précédent, de David et Salomon, pour qu'il soit aussi important. Il est aussi appelé prêtre du Très-Haut, un dieu, un El, en hébreu, dont on entend parler pour la première fois, au singulier, après avoir entendu, dans le début du livre de la Genèse, un Elohim, au pluriel. Il est créateur du ciel et de la terre. Ici, El est décrit comme maître, seigneur, possesseur de la terre et du ciel. Alors, est-ce qu'on peut spéculer déjà une autre fois sur cette rencontre ? Abraham, vous l'avez déjà entendu, répond à l'appel de Dieu qui lui dit en hébreu « Lech Lecha »« Va vers toi » ou « Va pour toi », les deux traductions sont possibles. Et il se déplace, obéissant à l'ordre de Dieu, d'Our, la ville d'Our en Chaldée, jusqu'en Canaan. Et on peut imaginer qu'il se soumet là à un dieu plus local, qui se nommerait El Elyon, El El, le dieu très haut. C'est une hypothèse. Tous ces textes ne peuvent donner qu'à spéculation. On peut lire beaucoup de littérature, on ne peut qu'avancer des spéculations et vous m'autoriserez ce matin à vous offrir mes hypothèses, qui sont aussi des questionnements, bien entendu. Donc, est-ce que ce déplacement, ce changement de territoire, ne correspond pas à l'adoption du dieu local de Canaan ? Vous savez, dans l'élaboration des hommes, pour marcher vers l'unicité de Dieu, bien des traditions nous donnent des exemples comme celui-ci. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous êtes frappé d'entendre ce nom Elohim au pluriel, Yahou, le fameux nom imprononçable, seuls les théologiens l'appellent Yahou. Vous savez que les Juifs lui substituent le mot Adonai, qui veut dire lui-même le Seigneur, Shaddai, le puissant, ou El Roi, celui qui voit tout. Dans la marche vers l'unicité, dans l'islam par exemple, qui vous savez quand même est extrêmement attaché à ce principe d'unicité, on a quand même une sorte de dérive. On donne à Dieu 99 dits noms de Dieu ou qualificatifs de Dieu. et certains, bizarrement, trouvent des échos dans l'hébreu. Même Allah, en fait, n'est jamais que le même terme qu'on trouve en hébreu. C'est très proche d'Elohim. Alors, c'est une interrogation que je pose avec vous, de type anthropologique. On a un Abraham qui va nous faire un principe de justice au nom de Dieu. Je crois que c'est un des personnages dans la Bible qui porte mieux la marque de la justice. Être juste, c'est à la fois résoudre avec justesse une situation, mais aussi faire preuve et œuvre de justice en même temps. Abraham n'est pas que le seul serviteur de Dieu, obéissant, il prend des initiatives. Vous voyez, dans le conflit qu'il a opposé avec les gens de Lot, de sa famille, Abraham ne prend le risque d'être juge et parti. Il est équitable dans les deux cas. Il ne veut pas qu'il y ait de dispute, dit-il, dans son groupe. Non seulement il partage le territoire avec son parent, Lot, mais il le laisse même choisir quel côté Lot va pouvoir s'approprier. Il a la primeur. Alors que Lot choisit les plaines, Abraham prend les montagnes. Ce n'est pas les régions les plus pratiques pour faire paître des troupeaux aussi nombreux. Mystère. Aussi, vous savez qu'Abraham intercède pour que Sodome ne soit pas anéanti au nom de juste qui y vivrait. Voilà une figure de justice. Alors, que peut-on faire de ce Melchisédek et de cette rencontre avec Abraham? Visiblement, cela ressemble à un jubilé. D'ailleurs, dans le texte de Qumran dont je parlais, il est clairement question de jubilé. Un jubilé, vous savez, c'est toutes les périodes d'environ 50 ans, il y a une remise partielle des dettes ou complète des dettes et une redistribution des terres pour faire vivre la communauté, pour qu'elle se pacifie elle-même, évidemment sous le regard de Dieu. D'ailleurs, dans le texte de Qumran, c'est clair. Melchisédek, est chargé du jubilé. Alors dans ce récit où les têtes tombent, où les corps donnent profusion de sang, on peut imaginer que Melchisédek et Abraham font œuvre de justice. Ils seraient dans cette rencontre, tous les deux en fait, l'archétype d'un pouvoir bien exercé. Vous savez que dans la Bible, généralement, les rois, y compris les plus prestigieux comme David et Salomon, finissent tous par dévier, dériver, faire des erreurs et toujours étonner Dieu. Et parfois, ils en payent le prix. Alors, si on continue sur cette fibre ou cette veine, dans cette veine anthropologique, on a l'impression qu'il y a une distribution des fonctions. Melchisédek est roi, il est roi de justice. Qu'un roi exerce la justice, ce n'est pas contradictoire, on a bien des exemples. Mais il est roi et prêtre. Et puis pas seulement prêtre, mais il est grand sacrificateur. Donc une fonction aussi de guerrier, qui est liée à la défense des peuples. Et puis une troisième fonction qui est dite selon, vous savez, les travaux de Georges Dumézil, les trois fonctions, la fonction sacerdotale, la fonction guerrière, et la troisième d'entre elles, c'est une fonction de production liée à la fécondité. Je me suis beaucoup gratté la tête pour savoir si on ne pouvait pas distribuer ces trois fonctions sur les deux personnages, et si cette scénette ne marque pas justement la liaison qui est faite entre tous ces aspects. Abraham a beau être puissant, avoir des tas de serviteurs, des tas de troupeaux, il n'est qu'un grand nomade, commerçant et étranger qui entre en Canaan. Et tout d'un coup, il se voit retrouvé par Melchisédek, qui le bénit, qui le fait rentrer dans une certaine forme de justice divine, et qui lui offre ce premier sacrifice. Là, je voudrais encore dire un mot, le sacrifice, pour nous, du pain et du vin, nous qui allons, surtout en ce dimanche de Saint-Sacrement à l'Église, nous avons une vision très claire, peut-être je suis un petit peu aventureux en disant ça, de ce qu'est un sacrifice. Peut-être on peut imaginer que ce texte aussi marque la fin d'un sacrifice de bête. Beaucoup de sang avec les guerres, mais peut-être déjà trop de sang dans les temples et les hauts lieux. Et donc on commence à dire, c'est mon hypothèse, changeons la méthode. Un pain avec du pain et du vin, on fait déjà un morceau du banquet. Avec du pain et du vin, on peut communier sans avoir à égorger des bêtes. Voilà l'autre interrogation que j'ai. Parce que vous savez, certains pensent que justement Abraham, quand il veut bien obéir à Dieu pour sacrifier son fils, on lui substitue un bélier. Est-ce que ce n'est pas encore une nouvelle étape ? C'est ce que je crois ce matin. Voilà un petit peu les interrogations que je voulais partager avec vous. Elles sont un petit peu contraignantes, puisque c'est les textes du jour. Elles sont un peu étranges. Mais après vient le Christ. Et là, on pourrait ajouter toutes les traditions d'Église, les pères de l'Église qui se sont écharpés avec des... C'est pourquoi nous sommes tous appelés à faire de la spéculation, de la théologie. Je suis ici au foyer de l'âme. On a toujours aimé ça, au foyer de l'âme. Ne pas s'interdire de se poser des questions dans les limites du raisonnable, évidemment. Et c'est une Église, je ne sais pas quelle est la tradition actuelle. Moi, je l'ai connu depuis, quoi, 30 ans. Je reconnais quelques visages, hein, très familiers. Bon, ce n'est pas une église des plus sacramentaires. Et on a raison de l'être ou de ne pas l'être. Puisque vous voyez bien au travers de ces textes que j'ai choisis, c'était un petit peu ardu à entendre parce que c'est un peu sec, mais que les biblistes, les canonistes ne se sont pas privés soit de développer des personnages, soit de les laisser un petit peu dans une lumière obscurcie. Alors voilà, toutes ces questions. Qu'est-ce que nous voulons faire d'un sacrifice ? Comment concevons-nous le sacrifice, la Sainte Cène ? Et de là, l'autre grande question qui vient derrière, qu'est-ce qu'un prêtre ? Là aussi, bien des interrogations ont été posées au foyer de l'âme. Parfois des adaptations de vocabulaire, pas seulement au foyer de l'âme hein, d'ailleurs. Mais bon, je suis ici, il faut bien que je fasse un petit peu de publicité pour ce temple magnifique. Il faut se poser ces questions, puisque toutes nos églises, elles sont moins remplies qu'il y a 50 ans, 60 ans. Qu'aujourd'hui, vous savez, une partie de mes activités, c'est d'enterrer des catholiques qui ne trouvent pas de prêtre pour les enterrer. Ça indique quand même que le mouvement de population est assez grave. Les prêtres sont débordés en desservant plusieurs églises. Alors qu'est-ce qu'un prêtre ? Et vous voyez, comme moi, vous entendez à la radio, à la télé ou dans les journaux, vous lisez que l'Église catholique romaine se pose bien des questions. Faut-il ordonner maintenant des veufs ? Des divorcés, ça serait difficile, parce qu'il y a rupture de sacrement. Les protestants ont longtemps réfléchi, puis maintenant c'est une banalité absolue que d'avoir des femmes pasteurs. Il y a eu le même débat dans l'église anglicane et épiscopalienne. Aujourd'hui, on peut avoir des pasteurs homosexuels, ça ne choque plus personne. Ça n'intéresse plus personne. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'aller fouiller dans la Bible comme on l'a fait ce matin, c'est d'en tirer une inspiration, ou bien, comme je le fais ce matin, de vous interpeller sur la difficulté d'entrer dans ces textes, de les lire avec un esprit vraiment critique, sans faire de folie, bien sûr, hein, sans aller réinventer la Bible elle-même. Il y a un grand nombre de contenus. Mais si je reviens à Melchisédek, l'ordre de Melchisédek, selon l'ordre de Melchisédek, si vous prenez, par exemple, dans la tradition catholique romaine, on rentre dans cet ordre par le baptême, autre sacrement qui nous est commun. Baptême qui est dit, donné dans toutes les églises au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez déjà une première entrée dans le sacerdoce universel. Et puis tout d'un coup, l'Église, certaines églises ont choisi de se réserver des fonctions, de les rendre encore plus sacrées en faisant une deuxième entrée dans la vie sacerdotale par une ordination. Ordination des prêtres, qu'ils soient catholiques, anglicans comme moi, épiscopaliens, pour d'autres amis ici, orthodoxes, ça ne va pas de soi. Parce que c'est cette formule qu'on utilise pour ordonner des prêtres ici et là. Or, aujourd'hui, nous avons besoin non seulement de prêtres, mais nous avons besoin que chacun et chacune ici soit un petit peu prêtre à sa manière, exégète, théologien, prédicateur, chanteur, musicien, pour que nos églises aient encore un visage. Demain, qui sera le visage de l'Église ? Avec quel message ? Avec quelle complexité de message ? Moi, je veux bien faire un culte de louange. Hein ? Il suffirait d'ailleurs de m'entendre avec l'organiste, nous pourrions passer 2 heures. Moi, j'aime beaucoup l'orgue, évidemment, vous le savez. Donc, on pourrait passer 2 heures à chanter Dieu, sa bonté, sa fidélité, et nous en serions très heureux. Cependant, même si ces cantiques sont extrêmement bibliques, dans le fond, nous perdrions la texture de ces textes, la rugosité de ces textes. Alors, je vous invite à souvent ouvrir des lectionnaires et à prendre un passage que vous connaissez moins, et puis de vous y frotter. C'est un bel exercice pour voir que tout ne se résume pas dans des formules que nous employons avec trop de facilité. Voilà, chers amis, ce que je voulais dégager avec vous de ce Melchisédek, roi de justice, grand sacrificateur, et qui nous invite à entrer dans son ordre. Amen.
Bonjour à tous. Eh bien, je voudrais commencer bien sûr par remercier chaleureusement Christophe Lomont pour ce culte exceptionnel et cette prédication qui nous a fait vivre. Ce n'est pas facile de rencontrer Melchisédek. Melchisédek ou Dem ? Melchisédek. Personnellement, je ne l'avais jamais rencontré encore. Ça a été une occasion formidable à la fois de rencontrer le personnage, de rentrer dans un texte effectivement difficile, vous avez raison. Ce sont des textes dans lesquels on n'a pas très envie de rentrer, a priori. Et c'était un exercice extrêmement intéressant, et ce d'autant plus que, comme vous le rappeliez, la tradition du foyer de l'âme, c'est bien une tradition de remise en cause continuelle de nos croyances, de nos espérances, d'évolution dans notre foi. J'espère que nous allons encore le prouver dans la période qui s'annonce, puisque, comme vous le savez, nous allons accueillir notre nouvel le pasteur, Dominique Hernandez, qui va écrire à son tour avec nous une nouvelle page du foyer de l'âme à partir du 1er juillet prochain. Voilà, alors ça me donne l'occasion de parler de quelques événements proches pour le foyer de l'âme. L'année se termine, comme partout, l'année scolaire se termine, donc toutes les dernières séances des groupes qui viennent régulièrement au foyer de l'âme se sont terminées plus ou moins cette semaine. Il nous reste maintenant, il me reste à vous rappeler que le dimanche 7 juillet, il y aura encore des paniers pour le CASP, donc ne l'oubliez pas. En ce qui concerne les cours de français, Chantal, il y en a encore cette semaine. Et puis il y a le dîner des moniteurs des cours de français le 27 juin à 19h. On pensera bien à eux. Et puis, très important, la semaine prochaine, donc le 30 juin, c'est le dernier culte qui sera fait par Catherine Axelrad, notre chargée de mission pastorale qui nous a accompagnés avec bonheur pour nous tous pendant toute cette année scolaire. Donc nous lui témoignerons notre reconnaissance, bien sûr, c'est elle qui fera le culte. Et à l'issue du culte, nous aurons un déjeuner partagé pour lequel chacun doit apporter quelque chose, hein, Isabelle ? Voilà, donc il y a un cahier à la sortie du culte sur lequel vous devez vous inscrire, de façon à ce qu'on puisse prévoir un peu du salé, du sucré, et que le buffet soit bien rempli. Il y a également des enveloppes qui sont à votre disposition pour acheter un cadeau, à la fois pour Catherine Axelrad et pour Céline Bulourde, qui était également la jeune femme adorable qui a habité dans l'appartement du 6e depuis 3 ans et nous a beaucoup accompagnés sur un certain nombre d'activités de la paroisse, et qui maintenant va elle-même accompagner une paroisse en tant que pasteur dans le sud de la France. Donc ce sera l'occasion aussi de lui dire au revoir et de la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Donc le 30 juin, belle fête au foyer de l'âme. Et puis les deux premiers dimanches de juillet, le 7 juillet et le 14 juillet, ce sera les deux premiers cultes de Dominique Hernandez en tant que pasteur. Voilà, donc j'espère que vous serez tout de même nombreux, même si la période ne s'y prête pas. C'est important que vous mobilisiez le plus possible pour ça. Encore un détail pour le 30, vous savez qu'on est en train de terminer les gros travaux que nous avons faits sur le 3e et 4e étage de cette maison. On est très fiers de pouvoir faire aboutir ces travaux, et en particulier de pouvoir offrir à Dominique et sa famille un bel appartement de pasteur tout neuf. Pour cela, pendant l'apéritif, je pense qu'on prendra ensemble le 30, on vous invitera, ceux qui veulent, à venir visiter les deux appartements, parce qu'en fait beaucoup d'entre vous ne les connaissent pas, et donc à la fois l'appartement des bureaux du presbytère au 3e et l'appartement du pasteur au 4e, et ben ils sont tout neufs, tout beaux, c'est un peu grâce à vous. Donc c'est aussi une façon de vous remercier et de vous faire participer aux travaux du conseil presbytéral. Voilà, je vous laisse parler de l'offrande, parce que c'est quand même un moment important aussi.
Merci. Effectivement, c'est le moment de l'offrande. Vous voyez qu'il n'y a pas que Melchisédek qui offre du pain et du vin. Nous vous mettons à contribution pour la vie de cette église et son bien-être. Ensemble, nous voulons confesser notre foi. Je crois en Dieu, le tout proche, plus que l'homme ne l'est de lui-même, et que le ciel ne l'est de la terre. Je crois en Jésus le Christ, face divine de l'homme et face humaine de Dieu. Il accepta la mort mieux que nous n'acceptons la vie. Il vient pour libérer l'homme de ses idoles et nous donne sa paix, Je crois en l'Esprit Saint qui nous unit au Christ et dans le monde, ici et maintenant, événement de l'Église dans la foi, l'espérance et l'amour. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi commune. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier maintenant avec le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Nous avons beaucoup de sujets de prière. Nous les résumons dans ce Notre Père. Nous pensons à tous ces indigents. Pour ceux qui habitent comme moi à Marseille, j'ai vu quelques amis qui sont par hasard à Paris. Pensons à ces exilés au moment de l'été où nous allons baigner nos pieds dans la Méditerranée, qui y trouvent la mort dans l'indifférence la plus totale. Nous pensons à nos amis qui sont dans la difficulté, la maladie, parfois dans l'agonie. Nous pensons à tous ceux qui veulent grandir dans la foi et qui doutent. Seigneur, que leur doute soit demain un sujet de joie et d'espérance pour eux. Nos prières sont nombreuses, Dieu les entend. Il nous est plus proche, comme dit ce texte de la confession de foi, que nous le sommes de nous-mêmes. Je vais vous inviter, je crois que j'ai bousculé un tout petit peu l'ordre de la liturgie, c'est mon habitude, c'est souvent plus involontaire que volontaire. Entendez cette parole d'exhortation, frères et sœurs. Allez, continuez à marcher, que le monde voie votre lumière, qu'il entende votre parole, qu'il ressente votre joie, car nous sommes des témoins tous du Christ ressuscité. Et que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.